Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 16 mars. Ce soir encore, notre équipe traque l'actualité dans sa profusion et sa diversité et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Comme d'habitude, ces bruits seront politiques évidemment, les casseroles des trois candidats en tête des sondages n'en finissant plus de teinter derrière eux, mais aussi culturels ou scientifiques dans la deuxième partie de l'émission où vous entendrez entre autres échos des nouvelles de votre nez, du musée d'Orsay, des solitaires intempestifs chers à Raph ou encore du paysage radiophonique lyonnais. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine par Mathias. Bonjour à toi Mathias.
Bonjour Rémi. Dans ce rappel des titres, nous revenons tout de suite sur l'événement de ce jeudi 16 mars. Une fusillade a éclaté dans le lycée Tocqueville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, aujourd'hui. Plus d'éléments à la suite de ce journal. Politique maintenant, c'était l'heure pour Benoît Hamon de présenter aujourd'hui son programme pour l'élection présidentielle que nous détaillerons en suite de ce journal. Politique toujours, Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie et candidat à l'élection présidentielle, rencontrait aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel. Le candidat à l'élection présidentielle a déclaré avoir trouvé des convergences, je cite, avec Angela Merkel et a insisté sur la nécessité d'une, je cite encore, coopération renforcée avec l'Allemagne. Notons par ailleurs que la chancelière allemande n'a jusqu'alors rencontré qu'Emmanuel Macron et le candidat Les Républicains François Fillon. En parlant des Républicains, le parti politique a aujourd'hui mis en œuvre une procédure d'exclusion du sénateur de Lyon Jean-Baptiste Lemoine, ancien soutien d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre, et finalement rallié à Emmanuel Macron. C'est la première personnalité politique nationale de droite à rejoindre le candidat d'En Marche, seul selon lui à assurer une alternance crédible. Politique étrangère maintenant, les législatives aux Pays-Bas avaient lieu hier soir, et les résultats ont été dévoilés dans la matinée aujourd'hui, et donc j'y reviendrai bien sûr. Actualité étrangère toujours, la reine Elisabeth II a autorisé la loi visant à mettre en œuvre le Brexit par le gouvernement britannique dirigé par Theresa May, en activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Si le Royal Assent n'est qu'une formalité, il lance officiellement la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui dispose de 2 ans pour négocier. En Grande-Bretagne toujours, l'IPSA, l'autorité de régulation parlementaire britannique, a décidé aujourd'hui de bannir l'emploi par des élus du Parlement de membres de leur famille. Reste à savoir si cette décision de l'IPSA sera entérinée par les députés eux-mêmes. Et c'est maintenant l'heure du focus. Nous commençons ce focus par un point sécurité. Comme je le rappelais dans le rappel des titres, une fusillade a éclaté dans le lycée Tocqueville de Grasse dans les Alpes-Maritimes et on compte 4 blessés. Un élève de 17 ans a été interpellé et a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place. Notons par ailleurs qu'un colis piégé a explosé au bureau du FMI à Paris, rue d'Iéna. Une assistante de direction a été blessée. Le parquet antiterroriste a été saisi. En matière de sécurité toujours, le président François Hollande a exclu aujourd'hui toute sortie anticipée de l'état d'urgence. Le dispositif actuel doit être maintenu jusqu'au 14 juillet, comme prévu par la loi. Toujours concernant l'état d'urgence, le Conseil d'État a tranché. Oui, les assignations à résidence peuvent être prolongées au-delà de 12 mois, à condition que la personne constitue une menace grave à la sécurité publique et que l'administration ait été en mesure de fournir des éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier cette prolongation. Benoît Hamon présentait aujourd'hui son programme pour l'élection présidentielle. Il s'agit d'une version remaniée du projet qu'il avait présenté lors de la campagne pour la primaire de la gauche. On y trouve bien sûr sa mesure phare, le revenu universel, qui s'adressera dans un premier temps à, je cite, « tous les travailleurs gagnant entre 0 et 2800 euros bruts ». Viennent ensuite la fameuse taxe robot qui servira à financer, je cite toujours, « un fonds de transition travail » et la légalisation du cannabis avec la mise en place de points de vente d'État afin de tarir le trafic. Il veut en plus expérimenter le récépissé du contrôle d'identité pour enrayer le contrôle au faciès et a de nouveau cité son 49.3 citoyen. Benoît Hamon veut aussi la mise en place d'un référendum sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Le candidat veut aussi élargir le droit aux allocations familiales dès le premier enfant. Et on notera enfin l'influence d'Arnaud Montebourg dans ce programme présidentiel. Le candidat du Parti Socialiste prévoit en effet des nationalisations temporaires éventuelles, la mise en place d'une politique de « made in France » et la taxation des super-profits banquiers. Benoît Hamon veut aussi réserver la moitié des marchés publics aux petites et moyennes entreprises françaises. Benoît Hamon joue la carte du rassemblement de sa famille politique après les nombreux départs socialistes vers Emmanuel Macron et l'annonce de Manuel Valls de ne pas parrainer le candidat socialiste. Le soutien affiché d'Arnaud Montebourg et de Vincent Peillon, dont il a repris certaines mesures, en est la preuve, comme celui de Najat Vallaud-Belkacem qui était présent avec lui hier à son meeting de Nice. Je reviens maintenant sur les législatives néerlandaises qui ont endigué la vague populiste. Après le dépouillement de la totalité des bureaux de vote, le parti pour la liberté de Geert Wilders n'arriverait qu'en deuxième position, avec 20 sièges sur les 150 que compte le Parlement néerlandais. Le parti de droite libérale, dirigé par l'actuel Premier ministre Mark Rutte, arrive en tête avec 33 sièges, moins qu'en 2012. On remarque la forte progression du parti écologiste de Jess Claver, qui passe de 4 à 14 députés, mais cette élection marque l'effondrement du parti travailliste, qui perd 29 sièges et passe de 38 à 9 députés après 5 ans de gouvernement avec le parti de droite. C'est un gouvernement de coalition qui se présage et qui regrouperait le parti de droite, les libéraux et les chrétiens démocrates. Et c'est tout pour le journal d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Mathias pour toutes ces nouvelles, pas toutes si excellentes que ça, et même concernant les Pays-Bas, on voit toute la presse se ravir ce matin, mais finalement c'est pas parce que ce n'est pas aussi grave que ce à quoi on s'attendait que ce n'est pas un petit peu inquiétant de voir les résultats de cette élection. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, non, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup, enfin, le Brexit plus Donald Trump, plus ça, on craint un peu pour nos fesses, disons, pour dans quelques semaines.
Je tiens à remarquer que le parti d'extrême droite n'a recueilli que 13% des voix aux Pays-Bas.
Le parti des blancs, comme il va falloir appeler l'extrême droite en Europe et dans le monde. Bref, sur cette remarque tout aussi pertinente que capillaire, nous allons en venir à la blonde de ce plateau.
Et oui, bah merci Ami.
Quelle belle introduction.
Quelle transition magnifique, j'approuve.
Marie, c'est à toi donc pour la revue de presse. Et bonsoir Marie.
Bonsoir Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors aujourd'hui, Marie, et je dois dire que je salue l'exploit, tu t'es astreinte à une revue de presse sans notre héros national, sans François Fillon.
Oui, j'ai essayé de faire ça, Rémi. Ce sera mon objectif du jour. Bon allez, j'en parle juste un tout petit peu. Ce sera 0,01% de François Fillon. J'en parle maintenant parce que le gros titre du Canard enchaîné était assez bien trouvé ce mercredi. Fillon, victime d'un travail de sape. Voilà, moi ça me fait rire. Bon allez, maintenant. On est sérieuse, je ne vais pas vraiment parler du sourcilleux aujourd'hui. Le Canard attire d'ailleurs plutôt notre attention sur un mec dont on n'a absolument rien à foutre en ce moment. J'ai nommé Jean-Louis Borloo. Ah oui, que vous aviez tous oublié Jean-Louis Borloo autour de ce plateau.
Eh bien oui.
Oui. Alors, on l'avait tous oublié. Eh bien, le Canard le surnomme la fée électricité du continent africain dans les colonnes du journal. Petit rappel pour Mathias, là, qui a l'air de pas suivre au fond. Le 3 mars 2015, le blanc chevalier Borloo lançait son agence Énergie pour l'Afrique avec comme but d'électrifier donc tout le continent et de sauver toute cette Afrique de sa pauvreté endémique. Rien que ça. Et l'homme politique enchaîne depuis les promesses. Mais oui, tout le monde va raquer, vous allez voir. La France fournira 2 à 3 milliards par an. Et puis l'UE va casquer aussi à hauteur de 3 milliards par an. Et l'ONU et la Banque mondiale aussi vont mettre la main à la poche. Et tout ça pendant 15 ans.
Ouais, alors ça semble peut-être un peu trop bien pour être vrai tout ça, non ?
On ne peut rien te cacher, Rémi. Ah, actuellement, personne n'a donné d'accord franc pour refiler du flouze à l'Afrique. Les journalistes du Canard concluent que Borloo produit peu d'énergie mais brasse énormément d'air. La moitié du budget réel de son agence est partie dans ses 130 voyages en avion pour des visites auprès d'autocrates et présidents divers. Ça fait un bilan carbone assez mauvais. Et puis surtout, quand on se rend en Afrique subsaharienne, on se rend rapidement compte que les villages et petites villes s'équipent elles-mêmes en achetant quelques panneaux solaires, panneaux qui sont devenus beaucoup plus abordables ces dernières années. Leur prix a été divisé par 10. Alors Jean-Louis, arrête de croire que les populations africaines ont absolument besoin de ton grand secours d'homme blanc. Merci bien.
Et on passe maintenant au Monde qui proposait ce matin une enquête sur un homme de l'ombre, contrairement à Jean-Louis.
Voilà, alors le quotidien consacre une double page au mystérieux Marc Ladret de La Charrière, titre de l'enquête « L'ami public numéro 1 ». Trois journalistes essayent de cerner le mystérieux propriétaire de la revue des Deux Mondes, dont on a pas mal parlé ces temps-ci. Ladret de La Charrière, c'est un milliardaire français, proclamé plus grand réseauteur de France par les journalistes du Monde. Alors ils essayent de reconstituer sa galaxie d'influence, parce qu'on peut vraiment parler de galaxie, dans une infographie simplifiée. Galaxie donc qui va de la promo 1968 de l'ENA à l'agence de notation financière Fitch, en passant par le mécénat de musées, des holdings et tout un tas d'autres choses. Une galaxie qui regroupe à la fois Giscard et Fillon, Hollande et Fabius, Dati et Aubry. Même le Monde a reçu des sous de la part de Ladret de La Charrière dans les années 90. Alors quoi ? Les journalistes sont allés le rencontrer, ils essayent d'ironiser un peu, de jouer les satiristes, mais bon, ça reste léger, hein. On n'est pas au canard enchaîné, c'est le Monde. Ou alors oui, Ladret de La Charrière, quand on le rencontre, il triture nerveusement son sous-main en cuir. Non, il ne dément pas avoir embauché Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes parce que Bichette était déprimée après le départ de Matignon. Bon, c'est le Monde et clairement, niveau critique, on a vu plus corrosif.
À propos de critiques, il y en a un qui s'en prend des critiques, mais ça n'a pas trop l'air de les gratigner.
Oui, il s'agit bien sûr de l'inénarrable Emmanuel Macron. Le Courrier international lui dédie sa une dans le numéro de cette semaine. Macron, une énigme française, la percée spectaculaire du candidat d'En Marche n'en finit plus d'étonner la presse étrangère. Alors, moi j'ai parcouru les articles ce matin, du New York Times à El País en passant par Die Welt, et ce qui en ressort, c'est que personne, mais alors vraiment personne, ne comprend. Macron est inexplicable, il existe, il est, et c'est tout. Bon, par contre, ça tacle assez violemment, et c'est le Milanais Federico Iarlori, pardon, qui fait ça le mieux dans un édito pour l'Inchiesta, donc journal milanais. Pour lui, Macron, c'est ce patineur, vous savez là, qui a remporté la médaille des Jeux Olympiques 2002, parce que tous ses autres concurrents s'étaient cassés la gueule. Macron, c'est un ancien ministre qui, curieusement, n'est pas éraflé par le bilan du quinquennat Hollande. Macron, c'est un mec populiste et sans programme que la presse a porté au nu. Un messie jeune et fragant. Macron, c'est juste un mec né sous une bonne étoile.
L'explication par la destinée, c'est beau. Bon, c'est plutôt douteux, mais au moins on rigole un petit peu. Et puis sur l'électorat de Macron, d'ailleurs, Libération a peut-être son mot à dire.
Oui, ce matin on trouvait dans Libé ce gros titre, « Gauche, le dilemme du vote utile », incrusté sur un gros plan du visage de Macron. Bon, c'était plutôt la couverture du malaise, mais on n'est pas là pour commenter les choix esthétiques de Libé. Par contre, on est là pour discuter de la publicité mensongère. Alors une fois qu'on ouvre le journal, le « dilemme du vote utile » devient 2017, enquête sur les nouveaux frondeurs du PS. Alors oui, d'accord, les journalistes sont allés recueillir plusieurs témoignages de militants PS, ok. Oui, il y en a un qui explique qu'à côté du programme de Fillon, eh ben Macron, c'est un programme de gauche, je vois pas de quoi on se plaint, franchement. Et puis, surtout, il y en a un qui explique que non, pardon.
Oula, on reprend.
Pardon. Mais j'ai lu tous ces témoignages très très attentivement, je vous l'assure. Et surtout, ce que j'ai lu, c'est que ce sont des témoignages de gens terrorisés à l'idée d'un nouveau 21 avril, des gens qui vont voter Macron malgré eux, des gens tristes, des gens résignés, des gens qui voteront en étant certains de manifester contre lui dès le mois suivant s'il est élu. Et où vont donc tous ces votants, dont pas un seul ne rit, pour pasticher Victor Hugo ? Alors, je voudrais faire une petite pause. J'aimerais bien qu'on arrête d'employer le terme « frondeur » à toutes les sauces, comme on le fait depuis plusieurs mois. Les socialistes qui ont été interviewés par Libé, ce ne sont pas des frondeurs. La fronde, c'est un concept de l'histoire française, issu du XVIIe siècle. Et c'est un concept qu'on a projeté. Voilà, ça m'arrive parfois encore d'avoir des sursauts comme ça. Donc, ce concept de fronde, c'est un concept qu'on a projeté sur les députés qui se sont opposés aux programmes sociaux et économiques des gouvernements Hérault et Valls ces dernières années. Bon, je ne suis pas là pour juger de la pertinence de ce rapprochement qui ressemble à un grand écart entre le 17e et le 21e, admettons. Mais quand on dit frondeur, on imagine quand même des gens qui se rebellent, des gens qui prennent position contre le système, des gens qui ont un comportement d'opposition. On est actif quand on est frondeur. Voter Macron par défaut ou par peur, je suis désolée, ça n'est pas être frondeur.
Merci beaucoup Marie pour ce petit coup de gueule d'historienne qui, après tout, ne nous fera pas de mal, je pense.
Voilà. Et puis je tenais à faire passer un petit message aujourd'hui, puisque c'est les 9 ans de Mediapart aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on souhaite un bon anniversaire à Mediapart.
Eh bien, bon anniversaire à Mediapart et à tous ceux qui sont nés un 16 mars et qui nous écoutent attentivement. C'est Il important. Paraît que j'en connais, figurez-vous. C'est fantastique. Bien, eh bien, chers auditeurs, si vous aussi vous êtes nés le 16 mars, voilà, nous avons chanté pour vous et nous allons immédiatement passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Nous allons passer à votre nez avec cet édito scientifique. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Donc, une équipe internationale de chercheurs a développé un modèle de prédiction de l'odeur des molécules à partir de leur structure chimique. Tout d'abord, profitons du sujet pour un petit détour sur comment marche un nez, car non, ce n'est pas sur son pied. Il faut savoir que ce sont 1000 sur les quelques 20 000 gènes de notre ADN qui sont alloués à l'olfaction, la détection des odeurs. Et ouais, il en faut pas si peu pour être heureux quand il s'agit de goûter un bon camembert.
Alors, surtout le camembert, moi j'apprends surtout... ça.
Ah, la Normandie est représentée sur Transistor.
Le camembert dans lequel on trempe des frites.
La folie aussi. Je t'en prie, alors, poursuis, Alice.
Alors, un peu d'anatomie nasale pour expliquer tout ça. L'intérieur de votre nez est tapissé de ce que l'on appelle en biologie une muqueuse. La muqueuse est la peau très fine qui tapisse les cavités du corps, les appareils urinaires et génitales, le tube digestif et l'appareil respiratoire, dont le nez. Une muqueuse a la particularité d'être en permanence humide. Cette humidité est permise par la sécrétion de ce que l'on appelle le mucus. Dans le cas du nez, ce mucus est principalement composé d'eau, d'ions et de protéines. Le mucus maintient la muqueuse propre, notamment en évacuant la poussière lorsqu'il sèche. Et les protéines du mucus nasal assurent, de ce que l'on sait, une fonction fondamentale de l'olfaction. Elles permettent aux molécules odorantes de l'air de parvenir à la muqueuse en elle-même. Ce n'est pas si évident que ça, car ces molécules odorantes ne sont pas forcément solubles. D'où des protéines qu'on pourrait penser comme des scaphandres moléculaires que les douces fragrances enfilent avant de se plonger dans une mer de morphe.
Je sentais bien qu'on allait finir par y arriver.
Ok, la prochaine fois, je vais dire un sujet plus sexy.
Et du coup, tes protéines, une fois qu'elles ont touché le fond, pour ainsi dire, qu'est-ce qui leur arrive ?
Revenons à nos museaux. Eh bien, ces molécules vont rencontrer des cellules très particulières, celles qui nous permettent de sentir. Comme dans la plupart des systèmes de perception, ce sont des neurones. C'est ainsi que l'on appelle les cellules de notre corps qui sont spécialisées dans le transport et la conversion d'informations. Et ces neurones de la muqueuse nasale vont faire quelque chose de plutôt génial. Ils vont transformer l'odeur en signal électrique. Vous imaginez-vous que votre nez envoyait par télégramme l'odeur de pâte bolo à votre cerveau ?
Et non, on ne le soupçonnait absolument pas.
Et le premier grand défi de cette conversion, c'est de faire passer l'information chimique, qui est la présence du parfum et sa concentration dans l'air, dans la cellule neuronale. Pour cela, la molécule d'intérêt se fixe à des récepteurs de la surface de neurone, et comme un écrou sur la bonne clé plate. La suite est un peu complexe. Pour faire simple, cette fixation de la molécule à la surface du neurone va activer tout un tas de réactions chimiques dans ce dernier, qui va résulter in fine en un changement de charge de la membrane du neurone. On en reparle peut-être une prochaine fois.
Oui, peut-être, oui.
C'est donc un mécanisme très complexe qui va faire qu'un animal peut effectivement sentir et distinguer des odeurs. Car il faut pour cela que cette molécule puisse arriver jusqu'à la muqueuse et ensuite qu'elle trouve chaussure à son pied, question récepteur, sur le neurone. Ce sont des mécaniques encore peu connues car il y a un sacré tas d'écrous et de clés différentes. D'où le millier de gènes chez l'homme dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que l'équipe internationale de chercheurs a réalisé il y a quelques semaines, c'est-à-dire un modèle de prédiction de l'odeur des molécules, est donc nécessairement imparfait.
Et du coup, sur quoi ces chercheurs ont pu se baser pour construire leur modèle ?
Sur des récoltes de données subjectives, associées à des algorithmes de machine learning. Comme tous ces mécanismes de solubilisation et de reconnaissance des parfums sont en fait une grosse boîte noire mal comprise, avec par exemple des molécules très proches qui pourront l'une sentir et l'autre non, les chercheurs ont pris le parti de ne pas mettre les mains dans le cambouis. Ils ont donc demandé à une cinquantaine de personnes de caractériser des centaines de molécules très diverses pour plusieurs caractères, en demandant si ça sent bon, si ça sent le brûlé, etc. À partir de ce set de données, ils ont construit un modèle informatique évolutif, doté d'une capacité d'apprentissage et donc capable à terme de faire des prédictions. Ce logiciel a fait ses preuves pour quelques caractéristiques olfactives de leur système qui sont l'odeur de poisson, d'ail, fruité, de brûlé, épicé, de fleurs et acide. Un petit pas pour le camembert, mais un grand pas pour l'agroalimentaire, avec à la clé la possibilité de prédire l'odeur de pratiquement n'importe quelle molécule imaginaire.
Merci beaucoup Alice pour cette chronique. Alors qu'en penses-tu Marie, toi qui te mouchais à l'instant, comment regardes-tu ton geste?
J'ai pas de réflexivité comme ça sur ce que je fais, c'est tout.
D'accord, mais c'est bien dommage, en tout cas c'est assez intéressant.
Il faut lire le nez et le parfum.
Et bien voilà, après l'historienne et l'être classique, décidément tout le monde a...
Je ne suis pas dans l'être classique.
Tu vas pas le fâcher, grand Dieu, qu'as-tu fait Rémi?
Mon Dieu, Gogol en lettre classique. Je pense que des deux côtés on m'en voudra. Bien, merci beaucoup, tu es biologiste, ça c'est certain. Et pour éviter de continuer à raconter des conneries, je vais tout de suite m'en remettre à Robin. Robin qui est un fervent économiste, chacun à sa place. Et donc bonsoir.
Et les muqueuses seront bien gardées.
Bonsoir Rémi. Alors en bon économiste, je vais vous dire qu'à la City de Londres, plus d'un banquier sur 8 a l'impression que pour progresser dans sa carrière, il doit assouplir ses principes éthiques. Alors, ce que nous dit ce chiffre, c'est que les banquiers ne sont pas de purs sangsues. Non, loin de là, quand un banquier vous enrôle dans un prêt à taux usurier, il y a quand même une chance sur 8 pour qu'il y repense avec tristesse quand il va se coucher le soir. Plus sérieusement, c'est un chiffre assez intéressant, je trouve, parce que c'est assez rare qu'on ait des informations sur les conditions de travail dans les milieux banquiers. C'est un sujet auquel la sociologie s'est intéressée, et aussi surtout les sciences de la gestion et du management. Et elles ont souvent investi cette question en fait, des conditions de travail en se concentrant sur l'industrie automobile.
Ouais, alors que quand même, c'est nettement plus sexy de savoir comment on travaille chez Rothschild que chez Renault.
Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, ou ce que je pense, c'est que c'est assez pertinent de s'intéresser au fonctionnement interne des banques plutôt que de les voir comme de sortes de grandes entités monolithiques réifiées. Le chiffre dont je vous parlais est tiré d'une étude de la Banking Standards Board, portant sur l'année 2016 et qui a été publié il y a quelques jours. Donc cette Banking Standards Board, c'est un organisme à participation bénévole, indépendant, et qui a été créé en 2015, par les 7 plus grosses banques de prêt de Grande-Bretagne, en réponse à une demande du Parlement britannique qui demandait en fait une amélioration des comportements bancaires, notamment après la crise financière. Alors cet organisme compte aujourd'hui 35 membres, parmi lesquels Santander ou BNP Paribas. Malheureusement, il manque encore de grosses banques comme Goldman Sachs, et donc on ne pourra pas savoir si Macron dormait paisiblement quand il travaillait là-bas.
Et du coup, pendant que Macron dort paisiblement ou non, que fait concrètement cet organisme?
Alors le BSB, j'aime bien ce nom, propose une investigation des relations et des conditions de travail au sein des banques membres, donc, comme je le disais. Le but est d'identifier d'éventuels problèmes ou manques, mais aussi de repérer ce qui marche bien dans une compagnie, afin que d'autres entreprises puissent s'en inspirer. C'est ce qu'on appelle en économie le benchmarking. D'habitude, c'est fait pour comparer les politiques publiques entre différents États, et notamment c'est beaucoup pratiqué au sein de l'Union européenne. Alors le BSB propose une enquête annuelle, dont on a ici la première occurrence publiée, donc publiée il y a quelques jours, et qui traite de 2016. Pour cela, elle a défini 9 caractéristiques afin d'évaluer ce qu'elle appelle la culture des entreprises, des banques. Parmi ces caractéristiques, il y a notamment l'honnêteté, le respect, la compétence ou la responsabilité. Et il s'agit d'abord en fait, d'interroger la culture d'entreprise, qui est un concept hérité du management et qui est franchement aujourd'hui un peu passé de mode dans les sciences sociales. En gros, c'est les valeurs promues par une direction. Seulement, la BSB l'a définit aussi cette culture comme la manière dont on fait vraiment le business, pour les citer, c'est-à-dire les pratiques concrètes et pas juste idéales des banques.
Ah bah alors c'est parfait, Robin, dis-nous comment se passe le business dans les banques de la City.
Eh ben, les résultats de cette étude sont assez intéressants, je trouve. D'abord, on s'aperçoit que les banques interrogées sont très diverses vis-à-vis de leurs caractéristiques globales, c'est-à-dire leur taille, leur spécialité, mais aussi vis-à-vis de leur respect des fameuses caractéristiques. Par exemple, on a des variances très fortes au sein des banques sur l'honnêteté, c'est-à-dire le fait de parler et agir honnêtement et éthiquement. Dans la plupart des banques aussi, la grande majorité des employés pensent que les valeurs et les buts de leur organisation ont du sens. Par contre, plus d'un tiers considère que ces valeurs ne se retrouvent pas dans les pratiques concrètes du travail. Et c'est assez problématique si on considère qu'également plus d'un tiers des personnes interrogées ont peur des conséquences négatives s'ils expriment leurs préoccupations. D'ailleurs, presque la moitié des employés considèrent que la pression de leur environnement de travail est trop forte et 26% pensent que ça a des conséquences négatives sur leur bien-être. Ce qui m'a plus intéressé personnellement, c'est des questions, disons, d'éthique, puisque la plupart des employés considèrent que leurs collègues agissent de manière honnête, mais 12% ont expérimenté des moments ou des comportements immoraux qui ont été valorisés par la direction, et 18% pensent que leur entreprise choisisse de ne pas voir, de fermer les yeux sur des comportements inappropriés. J'aurais quand même bien aimé avoir des données un peu plus raffinées. Par contre, ça manque. Par exemple, on n'a rien du tout sur le lien entre perception de l'environnement de travail et la place dans la hiérarchie. Ce n'est quand même pas la même chose d'être guichetier ou banquier d'investissement, non ?
Sans doute. Et du coup, pour résumer, dans cette multitude de chiffres, qu'est-ce que tu nous proposes de garder ?
Je ne proposerais pas vraiment de garder de chiffres. De toute façon, ces chiffres, dans mon humble avis, ne sont pas très, très bien construits et pas très représentatifs, puisqu'ils n'incluent que les banques qui sont membres de l'organisation, donc qui ont bien voulu participer, et ça crée des biais évidents. Je garderai quand même l'idée générale qui me semble assez intéressante. L'idée, c'est de rentrer dans la boîte noire des banques, comme on dit en sociologie. En effet, l'économie considère parfois les entreprises, et en particulier les banques, comme des particules indivisibles, sans s'intéresser vraiment à leur rouage interne. Et on voit ici qu'en fait, les banques contiennent une diversité d'acteurs qui ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Donc d'habitude, ce genre de projet est plutôt fait par la sociologie et vise souvent à déconstruire la vision libérale, optimiste qu'on peut avoir des entreprises. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est paradoxalement, le projet politique de cet organisme, la BSB, n'est pas de pointer des dysfonctionnements des banques, mais plutôt de faire valoir leur capacité à s'adapter et à s'améliorer. Ce que la BSB dit, c'est qu'avec un peu de travail pour améliorer le management au sein des banques, notamment via le benchmarking dont je parlais, les banques devraient être capables d'elles-mêmes de tendre vers des standards plus éthiques, et qu'en fait, la réforme des banques est possible de l'intérieur, sans passer par la régulation de l'État.
Du coup, le BSB, c'est un petit peu les bisounours du capitalisme, si je comprends bien ce que tu es en train d'essayer de nous dire.
Voilà, pour le BSB, tout va se régler tout seul parce que les banquiers, au fond, sont gentils. Mais c'est peut-être vrai, mais au-delà de leur interprétation, les résultats sont intéressants pour tout le monde, y compris si on est dans une perspective un peu plus critique. Parce que ça nous amène à nous rappeler que derrière des grands mots comme la finance, Wall Street ou la banque avec une majuscule, il y a des vrais gens qui travaillent ensemble et qui parfois entrent en conflit. Et ça nous amène aussi à réfléchir au lien qu'il peut y avoir entre un système bancaire, une institution, et les croyances des banquiers, une idéologie, si on veut employer un vocabulaire marxiste. Donc les questions qui résultent sont, est-ce que les banquiers agissent en étant convaincus de la légitimité de ce qu'ils font, ou bien est-ce que c'est le fonctionnement des institutions qui les oblige à faire ça ? Ou pour passer de Marx à Spinoza, comme Frédéric Lordon, reprenons cet adage, est-ce que les banquiers sont-ils méchants volontairement ?
Merci beaucoup Robin, et nous restons sur cette question sans peut-être la résoudre tout de suite, mais elle a le mérite d'être posée. Et il est presque 21h sur Transistor. Chers auditeurs, l'heure de passer à notre volet culture qui est présenté de nouveau ce soir par Marie, que nous sommes ravis de retrouver dans notre studio. Bonsoir Marie, comment vas-tu ?
Ça va, je suis ravie de vous retrouver aussi.
D'accord, eh bien c'est parti. Donc le journal de la culture, Raph Marie, 21h sur Transistor.
Les paupières, les rabelles, les perleuses, les maupassants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Sartex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Alors bonsoir à tous. Donc en ce moment, les jardins sont en fleurs, le soleil brille. On rêve même déjà un peu à nos prochaines vacances. Alors mettons à profit notre envie de temps libre pour sortir un peu.
Et pour commencer ce panorama ensoleillé, Marie, tu nous fais voyager vers des contrées ibériques et même jusque de l'autre côté de l'Atlantique.
Et oui Raph, ne réprimons pas nos envies de grand air, courons dans les salles obscures. Bon, paradoxal, vous allez me dire, mais vous auriez tort, puisqu'en ce moment, c'est au cinéma Le Zola qu'a lieu la 33e édition des Reflets du cinéma ibérique et latino-américain. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du tout de cantonner l'Amérique du Sud ou l'Espagne au soleil, à la danse, aux vacances, ni à tomber dans la facilité d'un cinéma uniquement politique. Et c'est là toute la richesse de cette manifestation ambitieuse, ni panorama, ni parcours, mais dont le titre de reflet, au pluriel, exprime assez justement la qualité des choix opérés et le désir de prendre le pouls d'un cinéma créatif, varié et finalement difficilement définissable dans sa globalité, sans passer par de gros raccourcis. Alors difficile de faire son choix car il y en a vraiment pour tous les goûts avec près de 50 longs métrages, dont des sorties récentes à voir ou à revoir comme Poesia sin fin ou Citoyen d'honneur, des documentaires avec par exemple Zona Franca avec une rencontre avec le réalisateur pour les têtes d'affiche, mais il y aura aussi des avant-premières et des petites pépites à découvrir, le tout dans 11 salles de cinéma partenaires et autres lieux de Lyon et aux alentours.
Alors je tiens quand même à préciser pour l'avoir vécu que ce festival est ultra fréquenté et donc réservez bien à l'avance et venez très longtemps à l'avance pour faire la queue car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc c'est donc à saisir jusqu'au 29 mars et pour plus de détails, je vous invite à aller consulter le programme complet et les horaires disponibles sur Internet. Pour les plus parisiens d'entre nous, à noter cette semaine l'ouverture d'une exposition d'envergure au musée d'Orsay.
Oui, au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky. Joli titre, hein, n'est-ce pas ? Alors l'exposition a ouvert avant-hier, le 14 mars, et elle nous propose en effet de dessiner les contours de la quête quasi mystique qu'ont pu mener plusieurs artistes, entre autres les symbolistes, mais pas que. On va le découvrir justement dans l'exposition. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, vers un au-delà de la réalité, et cette quête afin d'approcher d'un peu plus près les mystères de l'existence, comme nous l'indique la notice du musée d'Orsay. Alors si tout cela vous semble très flou ou alambiqué, il s'agit de se repositionner dans un contexte d'industrialisation et de croissance du culte voué aux sciences, contexte dans lequel le paysage a pu apparaître aux artistes comme un moyen de subvenir à une aspiration spirituelle, ou du moins un moyen d'échapper à de nouvelles exigences perçues comme trop matérielles ou prosaïques. Alors l'exposition s'est organisée autour d'un partenariat avec le musée de Toronto, ce qui permet d'offrir un spectre très large d'artistes français, comme Gauguin, Van Gogh, Maurice Denis, mais aussi américains comme Georgia O'Keeffe ou Emily Carr, sans doute moins connus du public français mais qui méritent assurément le détour et qui font la richesse de l'événement. Les premiers aperçus de l'exposition ainsi que la sélection d'œuvres promet une parenthèse vraiment précieuse et une occasion unique d'envisager ce thème méditatif sous plusieurs aspects, esthétiques, stylistiques et donc géographiques.
Et donc c'est le 14 mars, ça a commencé donc avant-hier, et c'est jusqu'à fin juin au musée d'Orsay à Paris. Toujours du côté des musées, mais à Lyon, cette fois, une actualité assez rare pour être soulignée.
Et oui, puisque c'est un nouveau musée qui va ouvrir à Lyon ce samedi 18 mars, un musée dédié à l'artiste lyonnais Jean Couty, disparu en 91. Alors, admirateur de Courbet et élève de Tony Garnier, cet artiste né à Lyon débute sa carrière comme architecte avant de se tourner pleinement vers la peinture. De cet enseignement, il a conservé une importance de la ligne et du rythme, très présent dans ses toiles figuratives aux couleurs expressives, qui lui vaudra d'être reconnu et admiré de son temps. C'est son fils qui a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui en ouvrant ce musée, tout neuf, 800 mètres carrés pour quelques 180 œuvres. Alors je n'ai pas encore pu visiter les lieux, mais la nouveauté vaut sans doute le détour et ça se passe donc à Lyon, place Henri Barbusse, dans le 9e arrondissement. À deux pas de la maison familiale et de l'atelier de l'artiste, conservé pieusement en état par son fils.
enfin du théâtre, avec une pièce que j'ai pu voir en début d'année. Et je vous le réaffirme, il faut aller voir ou revoir Antigone, variation d'après Sophocle, qui se rejoue actuellement au TNP.
Effectivement, cette Antigone et ses mots qui résonnent encore et toujours d'un écho bien particulier en plein bouillonnement assourdissant, il faut bien le dire, de cette campagne électorale. Alors, ancrée aussi bien dans l'imaginaire collectif que dans celui des dramaturges, Antigone, cette ode à l'insoumission face aux lois abstraites de la cité, qui a été tant de fois relue, réécrite, revendiquée ou défendue, puise ici sa force dans le souffle même du texte grâce à la mise en jeu de Christian Sciarretti et surtout sous la plume de Jean-Pierre Siméon, le poète associé au théâtre, au TNP donc, qui propose ici ses variations d'après Sophocle. Tout commence donc par une lecture, les corps des comédiens se font plus distants ici pour donner pleinement les moyens à ces mots d'atteindre nos oreilles et nos âmes. Alors loin de vouloir nous secouer, il s'agit plutôt de venir nous cueillir ou nous accompagner vers une forme d'essence même de l'être politique, une essence qui pourra nous émouvoir ou pourquoi même nous mouvoir, à bon entendeur.
C'est donc Antigone et c'est au TNP à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Courez-y!
Et Raph, tu voulais rajouter un petit mot concernant une pièce qui va se jouer au Célestin.
Et oui, si vous vous souvenez d'une chronique de livre qui s'est faite déjà il y a un mois, Mayday va se jouer au Célestin à partir du 22 mars et je vous recommande fortement d'y aller pour l'avoir vu à la colline. C'est un très beau spectacle.
Et puis comme la culture s'est aussi jouée, notamment avec les mots, et qu'on n'est jamais contre un petit peu d'autopromo à Transistor, je vous rappelle que ce week-end qu'ont lieu les enregistrements publics de notre grand jeu « J'aime beaucoup ce que vous dites » et que tout le monde peut venir écouter, bien sûr, mais surtout participer. Il suffit de nous contacter.
En effet, ce sera avec Nicolas ce week-end en salle F001, si je ne me trompe pas. Et il est temps maintenant de continuer eh bien toujours avec la culture et donc ton billet alchimique, Raph.
Aujourd'hui, Raph, tu continues ton exploration de l'actualité des maisons d'édition de théâtre avec une nouvelle parition au Solitaire intempestif, Personne ne bouge, suivi de Jazz Poems, le nouvel ouvrage pardon, d'Enzo Corman.
Alors oui, personne ne bouge, bien sûr, personne n'est en train de rentrer dans le studio de Transistor pour nous braquer. C'est bien le titre de la pièce blague pourrie, je vous l'accorde. Donc l'ouvrage est donc composé de deux parties. Personne ne bouge, on peut le faire même avec le ton. Personne ne bouge. Et la pièce dont nous allons présentement parler est de Jazz Poems avec deux parties distinctes, Exit et un autre poème qui s'appelle Comme un chorus de bleu dans la nuit orchestrale.
Non, Exit comme la sortie. Hein.
Exit comme ça, la sortie.
Non, Raph n'a pas encore commencé avec son sujet de prédilection, mais...
Alors, on a ces deux textes, ces deux poèmes, donc, qui sont des sortes de performances poétiques qui étaient accompagnées au moment de leur création par des partitions sonores. Et donc ces deux textes qui accompagnent la pièce Personne ne bouge donnent à lire une sorte d'ordalie où les mots permettraient de désordonner ce qui est ordonné dans nos sociétés et d'abord désordonner notre société intérieure, l'image de nous-mêmes, celle qu'on renverrait aux autres.
Et en cela, l'ouvrage est placé sous les auspices de cette citation de Valère Novarina dont tu nous avais parlé la dernière fois. L'intérieur n'est à l'extérieur de rien.
Un peu plus énigmatique, Marie, s'il te plaît.
Je vais faire un effort. L'intérieur n'est à l'extérieur de rien.
Alors, pour pendant en revenir... deux semaines, c'était moi.
Je reprends mon poste. Alors, pour en revenir à Personne ne bouge, que raconte cette pièce au titre semblable à l'injonction classique d'un gangster ?
Personne ne bouge, tu le refais aussi ?
Personne ne bouge.
Voilà,
ça fait peur.
Ça fait peur. On ressent de la peur, la peur transpire. Alors, effectivement, la pièce déroule un dispositif narratif qui joue sur le soliloque et le retour de soi à soi dans la parole. Alors, ce soliloque, c'est celui d'un prisonnier qui est assujetti à l'isolement. Alors, il s'agit, comme le précise l'auteur, d'un DPS, un détenu particulièrement signalé. Donc, il y a d'abord un cadre légal qui est mis en place, c'est-à-dire que par son récit, par des notes de bas de page ou des paragraphes citant la loi, le lecteur aurait accès aux conditions de détention du détenu. À ce cadre s'ajoute le soliloque adressé du prisonnier, que nous appellerons pour la circonstance de ce livre, l'isolé. Soliloque qu'il déploie face au personnage féminin du médecin qui vient le visiter deux fois par semaine et je vous déçois tout de suite, il n'y a aucune histoire sexuelle entre le médecin et le prisonnier. À cet échange fictif, se superpose une fiction qui habite l'isolé. Il s'imagine partenaire de jeu et même proche de Marlon Brando, et imagine avoir vécu sur l'atoll de Teyaroa, que l'acteur avait acquis à la fin des années 60 et sur lequel s'est peu à peu développé le tourisme de luxe. Et Marie a une info exclusive à ce sujet.
Un scoop, Barack Obama y est même en ce moment et il va y séjourner pendant près d'un mois. D'après Outre-mer Première. Attention, on cite nos sources.
Une lecture fascinante.
Alors, en plus de ces arcanes narratives que tu décris, le lecteur est accompagné dans ce parcours de l'isolé aux 46 fragments discontinus et amers par de nombreuses incises venant éclairer une réflexion philosophique et poétique sur la prison. Alors, l'ensemble tend vers une même esthétique qui dès lors devient un acte de survie, faire place au vide.
Et oui, et c'est la peur qui peut nous empêcher en quelque sorte de faire ce vide. La peur, on le sait, est un moteur de lâcheté à la fois, mais aussi d'héroïsme. Le moteur de n'importe quel récit, car s'il n'y avait pas de peur dans nos récits, il n'y aurait pas non plus de littérature, car aucun risque à en prendre, et peut-être même qu'il n'y aurait pas de journal amplifié, ne sait-on jamais. Donc l'isolé vraiment se décrit, lui, dans le texte. Je l'appelle l'isolé, mais le texte ne l'appelle pas du tout comme ça. Hein. C'est moi qui lui prête ce terme.
Il s'appelle Jacob dans la vraie vie.
Donc l'isolé se décrit comme un bloc de trouille dérivant dans l'espace. La peur est quelque chose d'obsédant pour lui. Comme il le dit, on est la prison et le détenu. On a, en plus de ce personnage et de tout le dispositif que je viens de décrire, quelques incises auctoriales qui viennent in media res coordonner toutes les arcanes narratives, dont une est particulièrement signifiante. En effet, l'auteur écrit « On peut visiter la solitude du tolard, non pas briser son isolement ». En cela, il apparaît que le texte rejoint l'idée que le soliloque, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on voudrait parler, et qu'on imagine pour se rassurer, c'est d'abord un récit personnel et intime. Qu'importe ici que ce récit soit celui d'un mythomane qui se croit auréolé d'une légende du cinéma en s'échappant à sa manière par un rêve de paradis terrestre et luxueux. Ce récit, il le choisit, il l'assume. Comme si l'isolé devenait lui-même acteur et rehaussait son discours de tolard aux accents débonnaires par une épiphanie libératrice et pulsatrice, une expérience de transcendance du réel à la Joyce par exemple. Ainsi que le dirait l'isolé dans les dernières instances du récit, que je ne vous ai volontairement pas dévoilé ici, et ce notamment dans les gestes narratifs entre le médecin qui pavoiserait de sueur et d'excitation selon les dires de l'isolé, et dans l'échange qui s'ensuivrait entre eux, et qui, je le rappelle, n'est absolument pas un échange sexuel. Lisez le livre pour découvrir de quel échange il s'agit. Ainsi qu'il pourrait donc l'esquisser dans ses paroles que je vais reformuler à ma façon, en me faisant, en tant que lecteur, le traducteur, comme le dit l'auteur, des paroles à venir traduites du silence auquel la réduite la réclusion. Comme donc il le précise dans une autre incise auctoriale, il faudrait s'inventer une liberté.
C'était du Raph, mais le livre, ce n'est pas de Raph, mais c'est à lire absolument, donc.
À lire absolument, tout à fait, et nous allons terminer ce journal.
Personne ne bouge.
Merci beaucoup, Raph, pour cette petite frayeur. Tous nos auditeurs ont sursauté à cause de toi, mais restez encore un petit peu, chers auditeurs. Promis, Raph ne sévira plus sur ce plateau pour aujourd'hui. Nous terminons avec une dernière chronique. Je vous promets que c'est très très bien. Allez-y, restez.
Ondes courtes.
Les amateurs de radio n'auront pas manqué d'entendre parler de Plus près de toi, la matinale de Radio Nova où sévit Édouard Baird depuis l'automne dernier. Retour aux sources pour l'acteur qui avait déjà fait les grandes heures de Nova il y a plus de 20 ans avec la provocante Grosse Boule, animée entre 93 et 97 avec Ariel Wiesmann. Vous avez peut-être également eu vent du petit coup de force d'Édouard Baird dans cette matinale le 25 janvier dernier, et dont je n'avais pas eu le temps de parler ici, le vrai faux piratage du 7-9 de Patrick Cohen sur France Inter. Alors comme vous l'entendrez dans un instant, l'animateur a orchestré un petit duplex entre les antennes, se lançant dans une grande diatribe absurde sur les ondes d'Inter donc.
19 mots qui racontent la négligence d'une mère, les dangers du tabac, l'impuissance de stopper un train.
Oui, mais allô, Patrick Cohen.
Oui, qui parle?
Peu importe qui parle, c'est Edouard Baird, mais... ouvrir, de se parler les uns aux autres, de se regarder, ça n'existe plus tout ça, Inter, Nova, la télévision, les réseaux sociaux, il y a un grand tout, Patrick, vous en faites partie, ouvrez, nous sommes les petits, nous sommes les sans-gras, nous sommes les exclus des radios nationales, nous sommes des petits gars dans une cave de Paris, comme il y en a...
Merci. C'est Edouard Baird, en direct de la matinale de Nova, étonnant, non?
Étonnant, oui. Et donc, je cite, hein, ça n'existe plus tout ça, Inter, Nova, il y a un grand tout. Et c'est bien de fusion qu'il s'agit ici, si j'ose faire la petite blague, puisque c'est à la faveur d'un nouveau rapprochement avec RTU que Nova devrait s'installer sur les ondes lyonnaises d'ici quelques mois. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la chance de connaître RTU, un petit rappel s'impose. Radio Trait d'Union est fondée en 1981 comme toute une ribambelle de radios associatives et se trouvait en 2010 dans la même situation que beaucoup de ces radios, à savoir en l'occurrence avec quelques 80 000 euros de dette. C'est l'actuel directeur Alfredo Da Silva qui, reprenant la station en 2013, en a mené ce qu'il convient d'appeler une renaissance. Aujourd'hui, RTU réussit à occuper à Lyon une place qui est sans conteste la sienne, profitant de l'absence de FIP et de Nova pour proposer une programmation musicale éclectique et moderne, je cite, à l'image de ce trait d'union qui s'attache à relier les cultures, comme on le lit sur le site de la radio. Et ce renouveau aura été aidé par un premier rapprochement avec Nova opéré en 2014, et à l'occasion duquel RTU avait repris le slogan de Nova, le Grand Mix, son logo également, et puis évidemment les célèbres top horaires de Nova dont je ne peux pas résister à l'envie de vous faire écouter un petit extrait.
Les maladies vénériennes, j'en ai vu défiler des centaines dans mon cabinet, c'est ça que tu veux, hein? Pisser les lames de rasoir, et pouvoir boire de vin.
Et j'ai très difficile de se débarrasser des préjugés éducatifs. J'ai été instituteur, j'en sais quelque chose.
Quelle heure est-il?
Il est 9h.
Hein? Vous avez dit combien?
9h.
Eh ben voilà!
Alors 9h17 en l'occurrence, mais bon. RTU donc bénéficie du soutien logistique de Nova, qui pense depuis longtemps à son installation à Lyon. Et peu à peu, le projet se monte. Il s'agirait d'ouvrir une antenne lyonnaise de Nova avec une dizaine d'heures par jour de décrochage locaux assurés par RTU sur une fréquence gérée en partenariat par les deux structures. C'est ainsi qu'en mai dernier, RTU a rendu sa fréquence, le 89.8, au CSA, ce qui n'était plus arrivé à Lyon depuis 2010. C'est quand même un événement, une fréquence qui se libère. Et c'est le couple Nova-RTU qui a candidaté à la succession de cette fréquence aux côtés de 19 autres dossiers, dont Sud Radio, hein, dont on se passera, Vivre FM, une radio ouverte sur le handicap, ou bien les Enfants du Rhône, composés en partie d'anciens collaborateurs de RTU qui voulaient conserver le 89.8 dans une structure associative, car c'est là l'autre enjeu de cette opération, le passage de la fréquence de la catégorie A, les radios associatives, à la catégorie C, les radios commerciales avec décrochage locaux. Une opération qui bouscule donc le paysage des radios commerciales sur Lyon et soulève quelques oppositions. C'est une situation assez exceptionnelle dans un système où les fréquences associatives sont particulièrement encadrées. Opposition donc malgré lesquelles le CSA a décidé mardi dernier d'attribuer le 89.8 à la SAS RTU, codétenue par Alfredo Da Silva et la radio de Mathieu Pigas, donc Nova, pour une radio qui serait Radio Nova Lyon. Alors Alfredo Da Silva, que j'ai contacté, n'a pas souhaité réagir car d'autres radios menacent d'entamer des recours contre la décision et ne veut pour l'instant pas se prononcer sur cette décision du CSA. Il affirme néanmoins on est droit dans nos bottes et assume la démarche qui a été engagée. Autre conséquence, l'arrivée de la publicité sur la fréquence, mais ce serait une publicité choisie et si possible une publicité pour des institutions culturelles. Alfredo reconnaît dans Rue 89 Lyon que ça occasionnerait une perte d'auditeurs, mais RTU n'en gardera pas moins son indépendance par rapport à Nova, puisque 10 à 12 heures seraient enregistrées en local, essentiellement dans l'après-midi ou dans la soirée. Pardon. Une programmation musicale et culturelle lyonnaise serait donc à l'affiche pendant ces décrochages. Et puis ce partenariat permettrait de pérenniser les postes de 2 employés de RTU. Il ne s'agit donc pas d'un renoncement, selon la direction de RTU, mais bien d'une intensification de la ligne éditoriale, on continuera à faire ce qu'on a toujours fait, me dit Alfredo da Silva au téléphone. Avec en supplément, donc, pour revenir à mon introduction, la jubilatoire matinale plus près de toi, tous les matins sur le 89.8. L'avenir seul nous dira que penser des inquiétudes et des oppositions, mais si la mayonnaise RTU continue à prendre, tout ça ressemble à un beau projet. C'était la 21e édition du journal radiophonique Amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Mathias Soubise, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Alice Alasmar, Marie Blanc, que je remercie également pour ses talents de scribe. Et puis enfin, Raph, un grand merci à Alice Rabillou, Marie Blanc, Marie Lécuyer qui est officiée en régie, ainsi qu'aux équipes de NS Média pour leur soutien logistique dans la diffusion de ce direct. L'Amplifié est de retour dans deux semaines, samedi 1er avril à 13h30 pour une édition spécial en direct et en public à l'occasion des intercus. D'ici là, n'hésitez pas à réagir à nos émissions sur notre site transistor.fr et sur la page Facebook de l'émission.